Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h42, dans un instant le petit déjeuner de l'actu, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Yves de Cardrel et Christine Bouillot, et vos appels 0826-300-300. En attendant, mais qu'est-ce qui fait parler avec Benjamin Anglaise?
Oui, Benjamin, en une du Figaro ce matin, la France redoute un nouveau confinement, puisqu'il y a un conseil de défense ce matin.
Oui, avec beaucoup de questions qui se posent, il y a le variant anglais, bien sûr, on en parle, un nombre de cas positifs qui repart à la hausse, également après les fêtes. Les experts, du coup, craignent effectivement une flambée de l'épidémie dans ce contexte de nouvelles restrictions sans inévitable, selon le Figaro. Reste à savoir si le gouvernement choisira de généraliser le couvre-feu à 18h dans toute la France. La crise sanitaire aussi en une du Parisien aujourd'hui en France. Comment les labos traquent le virus mutant? Début de réponse dans les eaux usées. Puis ensuite, dans l'analyse plus poussée, le séquençage des tests positifs. C'est ce qui est réalisé notamment à Lyon, au Centre National de Référence, qui indique que pour l'heure, moins d'1,4% des prélèvements sont suspects et pourraient donc relever du variant britannique. Et puis un curieux dossier dans Midi Libre qui s'intéresse ce matin à ces patients vaccinés par pure coïncidence. C'est assez surprenant, dit comme ça, mais c'est vrai que pendant que la vaccination des personnels de santé de plus de 50 ans bat son plein, eh bien, certains profitent des rendez-vous pas honorés pour s'immuniser contre le Covid, des injections qui ont l'avantage au moins d'éviter de gâcher des doses, et on sait que c'est important avec ce vaccin Pfizer-BioNTech.
Oui, absolument. Autre sujet qui fait déjà beaucoup réagir aussi sur les réseaux sociaux, on l'a évoqué ce matin, c'est le Canard Enchaîné qui affirme que Cécilia Sarkozy a bénéficié d'un emploi fictif entre 2002 et 2003.
Oui, à l'époque, Nicolas Sarkozy vient d'être nommé ministre de l'Intérieur et c'est sa suppléante qui prend sa place à l'Assemblée nationale. Une députée suppléante des Hauts-de-Seine qui, selon Le Canard, a embauché Cécilia Sarkozy comme assistante parlementaire à plus de 3 000 euros par mois. Sauf qu'à l'époque, eh bien, rien n'atteste la réalité d'un tel travail. D'ailleurs, l'hebdomadaire a même exhumé une interview dans laquelle l'épouse de Nicolas Sarkozy disait à l'époque travailler de façon bénévole auprès de son mari, non pas à l'Assemblée, mais au ministère. Alors, est-ce qu'on est en présence d'un nouveau Penelope Gate? Eh bien, non, à en croire le cabinet de Nicolas Sarkozy, qui affirme de son côté que son ex-épouse, Nicolas Sarkozy, s'était montrée très impliquée dans son travail de suivi des dossiers des Hauts-de-Seine, et ce, tout au long de son contrat de travail qui a duré 9 mois.
Oui, merci Benjamin. On poursuit notre tour de France, en fait, des sujets, et on va ce matin en Auvergne avec Sandrine Thomas, qui est rédactrice en chef de La Montagne et directrice des rédactions de Centre France et le groupe La Montagne. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, plusieurs sujets à la une ce matin à La Montagne. Il y a tout d'abord des pages spéciales sur le vaccin, toutes les questions qu'on peut se poser, et Dieu sait si on continue de s'en poser.
Oui, tout à fait. Alors, en effet, on craint, vous l'avez dit tout à l'heure, un nouveau confinement. Et en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la troisième région en France la plus touchée par le Covid, en effet, on a réservé deux pages complètes spéciales pour répondre à toutes les questions qui peuvent se poser sur le vaccin, puisque la campagne de vaccination, vous l'avez compris, a débuté dans la région, et notamment comment prendre rendez-vous, où se faire vacciner, quel est le calendrier. Et c'est d'autant plus important que, comme je vous l'ai dit, l'épidémie est très virale sur notre région, et notamment dans les EHPAD, où on a une recrudescence des contaminations et également une forte hausse des décès.
Oui, absolument. Donc il y a besoin évidemment d'avoir des réponses sur la vaccination. Alors, en cette période, qui est une période hivernale, où l'Auvergne est déjà... On a parlé là ce matin de cette situation de l'autre côté, dans les Alpes, avec les camions, les voitures bloquées par la neige. Il y a beaucoup de neige aussi en Auvergne en ce moment ou pas?
Ah oui, alors c'est très cruel parce que c'est la première fois depuis 25 ans qu'on a en Auvergne autant de neige, plus de 2 mètres dans le massif du Sancy.
Ah oui.
Et dans le Cantal, dans la station du Luron. Et c'est cruel parce que, comme vous le savez, les stations sont fermées. 25 ans qu'on n'avait pas connu de telles conditions de neige depuis Noël, la perspective des vacances de février. Pour autant, ça n'empêche pas les Auvergnats, dans la crainte d'un prochain confinement, dès qu'ils ont un petit peu de temps libre, notamment les week-ends, d'aller dans le massif du Sancy pour faire de la raquette, de la luge, du ski de fond, et notamment avec des comportements un petit peu dangereux, puisque nous avons beaucoup de lacs de cratères, de lacs d'altitude gelés, et beaucoup ont pris les patins, s'amusent à glisser sur les lacs, et des arrêtés ont été pris pour interdire leur traversée, que ce soit à pied ou en patin.
Ah oui, il n'y a pas eu d'accident grave encore pour l'instant, parce que c'est vrai que oui, sur ces cratères, et Dieu sait s'ils sont nombreux, mais quand on ne peut pas aller faire de ski, on cherche d'autres amusements, Sandrine, quoi, à la montagne, quoi.
Oui, oui, c'est ça. Hein. Et puis vraiment, on sent un besoin de prendre une bonne bouffée d'air pur et les massifs sont pris d'assaut. On a eu, si on n'a pas eu d'accident jusqu'à présent sur les lacs gelés, on en a eu avec des promeneurs imprudents en raquettes qui sont partis tardivement sans signaler leur itinéraire, sans connaître les conditions de montagne. Et on a eu le peloton de gendarmerie de montagne du Mont d'Or a eu quelques interventions. Ce week-end à effectuer.
Oui, ça doit être un spectacle en tout cas magnifique hein, du côté de la Bourboule, le Mont d'Or, le massif de Sancy. Oui, non, mais je connais bien, effectivement, j'aime beaucoup cette région, effectivement, l'Auvergne. Et puis alors, il y a une autre information, mais qui n'est pas si petite que ça. Évidemment, à côté du vaccin, c'est autre chose. C'est une anecdote, mais c'est les fouilles archéologiques, il y en a toujours à Clermont-Ferrand, ont permis d'exhumer, je crois, un enfant de...
Le corps d'un enfant,
oui. Oui, le corps d'un enfant d'une autre époque, c'est le moins qu'on puisse dire.
Hein. Oui, c'est ça, hein. Vous venez de le dire, nous sommes une terre de fouilles archéologiques et il y a eu une découverte assez exceptionnelle hier sur l'aéroport de Clermont-Ferrand et vous l'avez dit, une sépulture d'un enfant du 1er siècle. Sur le site même de l'aéroport de Clermont-Auvergne. Et alors, c'est particulièrement touchant, puisque sur place et dans cette fosse de 2 mètres qui a été découverte, on a retrouvé un jouet en forme de chiot, une dent de lait également de cet enfant, une vingtaine de poteries. C'est l'aboutissement de 3 semaines de travail méticuleux. Et on sait, en Auvergne, vous connaissez bien ce territoire, que le sous-sol regorge encore de belles découvertes à faire en Auvergne.
Ah, bah, c'est incroyable, quand même, du 1er siècle.
Ah, c'est extraordinaire.
Extraordinaire, quoi. Merci beaucoup, hein, Sandrine Thomas. C'est à lire dans le journal La Montagne, évidemment, ou aller sur les sites internet pour ceux qui ne sont pas en Auvergne. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Et on continue ce matin avec le petit déjeuner de l'actu avec nos éditorialistes du jour, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Yves de Cardrel.
Oui.
Et vos appels, comme tous les matins, 0826 300 300, vous voulez nous parler de la vaccination,
oui,
par exemple.
Oui, alors il y a plusieurs sujets sur la table. Il y en a sans doute deux qui opposent Alexis Poulain et puis Elisabeth Lévy, peut-être Yves de Cardrel en fait aussi, on va voir ça dans un instant. Il y a cette histoire autour de Alain Duhamel, Duhamel, d'Olivier Duhamel avec le philosophe Alain Finkielkraut, on va y revenir en fait dans un instant. Et puis, il y a quand même d'un mot, parce que vous n'étiez pas sur la même ligne ce matin, sur Doctolib. Alors, vous, Alexis Poulain, vous dites que c'est scandaleux de faire appel...
Ah non, je ne dis pas que c'est scandaleux. Je dis qu'il y a deux choses. Il y a à la fois...
Ce n'est pas le vocabulaire d'Alexis.
Gabriel Attal qui disait que c'est génial d'utiliser une entreprise française et qu'on doit faire confiance au privé, et je suis d'accord. D'accord. Alors pourquoi ils ne l'ont pas fait en mars quand les entreprises privées de logistique disaient « Nous, on peut avoir des masques très rapidement ». Et le gouvernement, là, ne répondait pas aux appels. Donc il y a une duplicité du gouvernement par rapport au rôle du privé dans la gestion de cette pandémie, que je trouve là dégueulasse pour le coup. Parce que oui, on devait faire confiance au privé dès le début, avec les cliniques, avec la grande distribution.
Donc ils font poursuite dans l'erreur.
On veut des masques. Et ça n'a pas été fait. Et donc là, on dit « Ah bah Doctolib, génial ». Or, ce que je disais dans mon édito, Doctolib a été hacké quand même en juillet 2020. Plus de 6000 rendez-vous qui se sont retrouvés dans la nature. Donc, si Doctolib donne des garanties au gouvernement que sa plateforme est solide et sûre et qu'il n'y a pas de risque de hack ou de risque, bien sûr, utilisons des solutions.
Ah bah donc, vous donnez raison à Elisabeth Lévy.
Mais Elisabeth, alors. Moi, je ne suis pas contre le privé. Je dis juste qu'on a payé, nous, avec nos impôts, le développement d'une solution de prise de rendez-vous qui n'a pas été utilisée. Et puis, finalement, on utilise Doctolib. Et alors, pourquoi on n'a pas fait confiance à la grande distribution dès le début pour commander des masques? Pourquoi on a empêché les pharmaciens de les vendre? Pourquoi on a fait que les médecins libéraux n'étaient pas dans le dispositif? Donc il y a une duplicité du gouvernement par rapport au rôle du privé qui doit être mise au
clair. Elisabeth et ensuite
Alexis,
Yves de Cardrel.
Excusez-moi, cet argument est hallucinant. C'est-à-dire que comme on a mal fait au début, pour ne pas être duplice, il faudrait continuer à mal faire.
Mais c'est juste... Je rebondissais sur les propos de Gabriel Attal qui critiquait...
Elisabeth,
vous ne pouvez pas nous critiquer de faire appel au privé. Mais justement, ils voulaient faire oublier qu'ils avaient tout fait le contraire au mois de mars.
Bon, enfin, moi, je ne crois pas la duplicité. Je crois que là, pour le coup, ils ont été raisonnables. Après Stop Covid, on a bien vu que l'État avait pas su faire. Et honnêtement, vous avez demandé à quelqu'un de vous dire qu'il y a zéro risque qu'il subisse un acte délictueux ou criminel. C'est absurde. Personne ne peut vous le donner. En réalité, vos données sur Facebook,
garanties,
hein, sur Orange...
Il y a des garanties, comme vous êtes hébergeur, il y a des garanties.
Non, mais vos données sur Facebook, sur Orange, vous avez parlé de hacking. Vous n'avez pas parlé de... Donc, vos données sur Facebook, sur Orange, Orange a perdu des millions de données l'an dernier, je me rappelle, des comptes piratés, sont effectivement menacés, c'est-à-dire qu'une société va évidemment avoir une politique de sécurité, mais dire on veut des garanties que ça ne se produira jamais, c'est comme si vous disiez je veux être sûr qu'il n'y aura jamais de meurtre. Bah non, ça n'existe
Yves
pas.
De Kerdrel, non, Yves de Kerdrel, votre éclairage sur ce recours à Doctolib et aux autres plateformes, parce qu'il y a pas, il y en a trois au total, privées.
Oui, tout à fait. Non, mais là, je pense que c'est une mauvaise querelle entre Elisabeth et Alexis. En fait, ils sont tous les deux d'accord. Mais et nous sommes tous les trois d'accord. C'est-à-dire que quand il y a une campagne comme de vaccination comme celle-ci, quand il y a autant de problèmes. De complexité dans le système à résoudre, plus on met de force, mieux c'est. Et Doctolib dispose d'un réseau extraordinaire. Doctolib dispose, malgré des événements de hacking, d'une confiance, d'un degré de confiance extraordinaire auprès des clients comme auprès des généralistes qui rémunèrent Doctolib. Et une sorte de partenariat public-privé
Bon, tout le monde ne va pas non plus sur Doctolib, faut pas non plus exagérer, quoi.
On va se faire vacciner par
la téléconsultation.
Il y a certaines personnes qui n'ont pas l'habitude, qui n'y vont pas, qui prennent des rendez-vous directement chez le médecin.
Mais vous allez vous faire vacciner, vous allez chez des médecins qui sont des médecins privés, et les Français sont très attachés à ça. Vous allez chez des pharmaciens, vous allez, donc si vous voulez tout d'un coup nous faire un fromage, parce qu'il y a un acteur privé, comme évidemment, heureusement que l'État a des prestataires privés, parce que s'il devait se mettre à faire absolument tout ce dont il a besoin, faire à manger pour ses militaires et ses écoliers, enfin bon, c'est absurde.
Non, Elisabeth, ce que disent beaucoup d'auditeurs qui réagissent à la question qui est posée, sur les réseaux sociaux qu'on a posé en fait ce matin, ils disent quand même que globalement, l'État aurait pu s'organiser. On verse en fait quand même beaucoup d'argent pour
c'est des usines à gaz technologiques, c'est des trucs. Ouais. Si vous voulez, au contraire, il faut vraiment une culture de ces choses informatiques, de ces gros systèmes informatiques qui doivent gérer des milliers de rendez-vous, des milliers de paramètres, des millions. Ouais. Si vous voulez, c'est totalement absurde de penser que l'État pouvait en un mois monter un truc pareil. Hein. Ouais. Enfin, franchement, ça demande il y a eu des levées de fonds énormes pour faire Doctolib.
Pas tous en même temps.
Patrick, je suis un peu d'accord avec Anne Hidalgo. S'il fallait refaire le débarquement de 1944, la France serait incapable de le faire. D'ailleurs, quand il a fallu monter un hôpital de campagne dans le Grand Est,
à Mulhouse,
au printemps dernier, il a fallu 10 jours, alors que les Chinois avaient mis 3 jours pour faire un hôpital en
on ne sait pas tout des Chinois.
On
n'a pas vu. Et le débarquement n'a pas été fait que par la France. Accessoirement.
La campagne vaccinale est d'une telle complexité que l'État ne fait pas appel. Il n'y a pas que Doctolib comme acteur privé. Mais l'État a lui-même demandé à McKinsey, un énorme cabinet de consulting américain qui est rémunéré 2 millions d'euros par vos soins par mois, à Accenture et à 4 cabinets de conseil, de l'aider, et cela simplement depuis 15 jours, pour essayer d'effacer les ratés de la campagne vaccinale, et notamment dans tout ce qui est logistique.
C'est vrai. Allez, autre sujet c'est toujours l'affaire autour du politologue Olivier Duhamel. Alain Finkielkraut, c'est avant-hier, s'est dit contre un lynchage généralisé du politologue Olivier Duhamel. Hein. Alors, il a d'abord condamné ce qu'a fait le politologue, mais après, dans ses explications, il a dit, il a posé la question face à David Pujadas, est-ce qu'il y a eu consentement, à quel âge cela a commencé, 13, 14 ans, etc. Du coup, la chaîne, en fait, a condamné ses propos en disant qu'elle veut un débat d'idées argumenté et respectueux. C'est sa ligne éditoriale. Elisabeth Lévy, peut-être, et ensuite Alexis Poulain.
Ça m'embête de commencer parce qu'en fait, dans cette affaire, je le sais d'avance, je suis seule contre tous. Ouais. Contre les auditeurs, contre Cécile qui a posé cette question tout à l'heure, contre Pelletier, contre vous Patrick, ouais, contre Alexis, etc. Et contre excusez-moi, moi, je vais vous le dire, ouais, et contre Yves, j'en suis persuadée. Ouais. Donc ça m'embête un peu de démarrer.
Alors, Oui.
Alors en trois mots, en fait. Ouais, la première, c'est que les gens sur les réseaux sociaux ont accusé Finkielkraut de choses innommables. Absolument sans avoir écouté ce qu'il avait dit, c'est-à-dire en disant l'inverse de ce qu'il avait dit. Il a parlé d'M le Maudit. M le Maudit est un tueur de petites filles, si vous voulez. Donc n'exagérons pas, il n'a pas été indulgent dans ce sens-là. Il a dit un homme, ça s'empêche, donc il a condamné ce qu'avait fait Olivier Duhamel. Ensuite, il a fait, tous les gens, si vous voulez, de cette planète s'arrogent le droit de juger. Mais au lieu de faire ce que ferait un vrai juge, c'est-à-dire, effectivement, écouter ce que l'accusé pourrait avoir à dire, ou en tous les cas, essayer d'entendre toutes les complexités d'une histoire singulière. Ces juges ont décidé que M. Duhamel était l'incarnation de l'inceste avec un grand I, et là, on n'a plus le droit à une seule chose, on n'a pas le droit de réfléchir, on a le droit de pousser des hurlements en disant « ce salaud, il faut le prendre par les couilles, c'est un salaud, c'est un salaud, c'est un salaud ». Si vous dites autre chose que ça, si vous vous écartez de ça, dès que vous commencez à réfléchir, et c'est ce qu'a voulu faire Alain Finkielkraut, il a voulu établir des spécifications. Quand on sort la phrase, c'est vraiment « donnez-moi deux mots de la main d'un homme et je le fais pendre ». Quand on sort cette phrase sur le consentement, ça a l'air d'être horrible. Voilà. Il a dit une chose, par exemple, il voulait simplement dire « qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qu'aurait fait un tribunal ? Est-ce que vous lui avez demandé ? Est-ce qu'il a dit oui ? Est-ce qu'il a dit non ? Après, vous pouvez dire que ce oui et ce non ne vaut pas pour un adolescent, mais vous avez un tribunal l'aurait fait. Mais le tribunal médiatique, lui, non seulement ne le fait pas, mais ne supporte pas qu'on le fasse.
Alors, Alexis Poulain,
mes amis, dernier mot, mes amis, amicalement, affectueusement. Je veux dire, vous êtes en train de participer à un lynchage dans le lynchage. Notre boulot n'est pas l'indignation. Notre boulot n'est pas de passer notre temps à hurler avec les loups parce que tout d'un coup, l'enfant étant sacré, on n'a plus le droit de réfléchir. Notre boulot, c'est de réfléchir et surtout pas de hurler avec tous les loups.
Oui, voilà. D'accord. Mais alors, Alexis Poulain.
Mais je crois qu'il n'y a pas... c'est pas une question de hurler sur le lynchage. Je suis assez d'accord. La décision de LCI a été assez rapide. Et effectivement, je crois qu'on n'est plus dans un temps de pensée complexe. Mais sur un sujet comme la pédocriminalité, on ne peut plus prendre des pincettes. Et je crois que justement, parce que la parole des victimes commence à enfin être considérée, parce qu'il faut voir que pendant des années, elle était déconsidérée, elle était moquée, elle était injuriée, c'est nécessaire finalement comme un retour de balancier, c'est assez terrible. Alain Finkielkraut en fait les frais d'une certaine façon, mais son raisonnement n'était pas fondé. Il y a la loi, il n'y a pas de consentement. Il y a la loi qui dit qu'il n'y a pas de consentement parce que justement, il n'y a pas d'histoire d'adolescence, d'enfance dans une histoire de viol au-delà de l'inceste. Donc la faute, elle est là dans la réflexion, c'est-à-dire qu'il réfléchissait à haute voix en plateau,
allez,
elle est là.
Merci à tous les trois, Yves de Kerdrel, Elisabeth Lévy, Alexis Poulain. Dans un instant, on va poursuivre le petit déjeuner de l'actualité. On a beaucoup d'autres sujets sur la table avec des invités, hein, notamment. Merci, on est un peu en retard.
Oui, et on en reparlera dans quelques instants. Restez avec nous, on revient tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h08, restez avec nous dans quelques instants. On reviendra sur la nationalisation de Alibaba en Chine. En attendant, on est avec Christine Bouillot ce matin. Bonjour Christine.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick.
Oui,
bonjour
dans
tout
le petit
monde.
Déjeuner et de toujours Alexis Poulain. Dans un quart d'heure maintenant aussi, on parlera beaucoup de la détresse des jeunes aujourd'hui. On l'a vu avec les étudiants. Et on l'évoquera avec un livre alors qui est un peu précurseur, qui était en fait, qui a été écrit par Tom Conan, qui intervient régulièrement sur Sud Radio, qui s'appelle Radical. C'est un roman, mais bon, il est inspiré
il y a
mais
du vrai,
beaucoup
ouais.
de la réalité. Il a 24 ans.
Comment une jeunesse
c'est assez formidable, ouais.
Glisse dans la radicalité, la oui. radicalisation, pardon.
Oui. Alors, juste avant de parler de cette histoire complètement incroyable quand même en Chine. Hein, alors là, sur Alibaba, c'est nous, on s'interroge sur Doctolib, etc. Mais alors là, on est à un autre niveau. Ce sondage intéressant ce matin, c'est le deuxième de la série IFOP fiduciale pour Sud Radio sur les régionales. Il y avait eu Ronald Pauvergne dans un premier temps. Et là, c'est sur l'Occitanie. Alors évidemment, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas si ces élections auront bien lieu au mois de juin, quand, etc. Quels seront précisément les candidats. Mais là, ça nous apporte quelques éléments, hein, Christine.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que les divisions, pour l'instant, sont à noter du côté de la droite de la droite. Voilà, ouais. Avec le trouble fait, le duo de trouble fait, qui pourrait effectivement, et qui a été sondé par IFOP, là, pour notre sondage, c'est effectivement le duo Robert Ménard et Brigitte Barège.
Maire LR de Montauban
et le maire apparenté FN de Béziers. Mmh. Alors les deux se sont déjà affichés, on avait eu l'occasion d'en parler sur Sud Radio,
oui,
on avait été les voir, ils avaient tenu une réunion publique d'un commun accord, pour parler de tout et de rien, de l'actualité du côté de Montauban. Il y avait effectivement beaucoup de monde dans la salle, il y avait beaucoup de médias aussi, parce qu'on se demandait pour quelles raisons les deux se réunissaient et se retrouvaient, et on sent effectivement une volonté, un désir d'autre chose que de municipal de leur part. Chacun, alors Robert Ménard étant dans une ligne un tout petit peu plus différenciée par rapport au RN, hein, qui
n'a pas. Oui, parce qu'il y a un candidat du RN. Hein, quand même.
Mais Brigitte Barège, elle, fonctionnant à l'intérieur des instances, et quand on lui posait la question de cette, on va dire, de ce duo et comment c'était perçu par les instances des Républicains, elle disait, bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas de. On me dit pas non, on me dit pas, on la met pas dehors. Enfin, en gros, c'est. On disait
alors,
pas...
ce serait un laboratoire expérimental, alors, la région occitane.
Alors, ce sondage, sans doute, va faire bouger les lignes. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on voit très bien que ça pose problème à la droite, et à la droite de la droite, puisque le candidat sondé RN serait à 16%, le duo Ménard-Barège à 14%, et le candidat Les Républicains UDI, enfin la droite dite classique, lui, il serait aux alentours de
11%. Ouais. Et la République En Marche, au passage, à 12%.
Ouais. Et la République En Marche à 12%. Alors voilà, on voit ce gros bloc qui fait qu'aujourd'hui, Carole Delga, qui pourtant, pour l'instant, fait la course en tête dans ce sondage, en tous les cas, à 6 mois de l'élection, effectivement pourrait profiter de ça. Mais si on additionne toutes ces forces, on s'aperçoit qu'on est sur deux blocs véritablement installés, comme l'ont toujours été, mais c'est plutôt à droite sur la région Occitanie que va se jouer le curseur, c'est-à-dire à quel moment on va s'allier. L'entre-deux-tours va être capital, hein, très très certainement, pour savoir comment.
Et dans l'hypothèse, où Brigitte Barège et Robert Ménard iraient, parce que là c'est une hypothèse. On interrogera en fait Robert Ménard pour savoir si vraiment cette hypothèse est plausible ou pas. Mais effectivement, dans toutes les
il y a beaucoup d'hypothèses qui sont plausibles avec Robert
bien
Ménard
sûr,
sur ces prochains.
Oui, et ainsi que d'ailleurs sur l'ensemble aussi des autres candidats à gauche, par exemple Antoine Maurice, Europe Écologie Les Verts, est-ce qu'il fera alliance ou pas avec Carole Delga, qui est à 25%.
Juste un dernier point, n'oublions pas que le rapport de force aussi est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a l'ex-Midi-Pyrénées qui était très gauche-centriste, centre-gauche, je dirais, hein, c'est un petit peu l'étiquette qu'elle a toujours eue, et l'ex-Languedoc-Roussillon qui a de plus en plus... on va dire, donner le crédit, en tous les cas, des électeurs. Les électeurs se sont tournés plus vers le Rassemblement National, ex-EFN, et très fort et très puissant sur l'ex-Languedoc-Roussillon, même s'il y a des îlots qui résistent à certains endroits. Mais on voit très clairement qu'il peut y avoir, on va dire, deux blocs qui s'affrontent en juin prochain. Oui. Ça sera intéressant de continuer à suivre, effectivement, l'évolution des sondages.
Donc, à gauche, Carole Delga avec le PS, Parti Communiste et PRG.
La gauche
classique. De l'autre côté, la gauche classique. classique, les Verts à 10% avec Antoine Maurice et les Insoumis, conduits là, dans cette hypothèse par Manuel Bompard à 8%. Merci Christine Bouillot, on y reviendra ce soir dans les vraies voix hein, de Sud Radio. Autre sujet, à 9h bientôt et quart sur Sud Radio, Cécile.
Eh ben, c'est l'administration chinoise qui pourrait nationaliser le géant du commerce en ligne Alibaba et son volet financier. François Godemont est avec nous, un historien spécialiste de la Chine et conseiller Asie auprès de l'Institut Montaigne. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe-t-il en Chine hors pandémie, hein, évidemment, parce qu'il y a déjà beaucoup d'interrogations. Mais là, François Godemont, le patron d'Alibaba, on n'a plus de nouvelles depuis, je crois que c'est le mois d'octobre, hein, oui. C'est ça. Et là, il pourrait y avoir la nationalisation de ce géant du commerce en ligne qu'il avait mis en place, quoi.
Je suis très prudent sur le terme de nationalisation, tout oui. simplement parce que les groupes que contrôle Jack Ma, Alibaba le plus connu à l'étranger évidemment, c'est le géant du commerce électronique qui fait à peu près 3 fois la taille d'Amazon hein, pour situer les choses,
ah oui.
Même si c'est surtout en Chine oui. que ces ventes se sont développées. Ant, une entreprise qui est essentiellement une société de paiement et de prêts qui concurrence toutes les banques chinoises. Yuebao, une entreprise qui récupère l'épargne des Chinois depuis le plus modeste chauffeur de taxi qui dépose 10 yuan avant de rentrer chez lui le soir jusqu'à des gens beaucoup plus riches et qui les rémunère mieux que les banques. C'est 3 grosses entreprises, mais elles ont toujours eu dans leur actionnariat au départ beaucoup de fonds d'État et d'entreprises d'État. Le mythe de l'entreprise privée, si vous voulez, il tient pas en Chine. Ce sont des entreprises qu'on peut qualifier d'hybrides. Jack Ma a révélé qu'il y a 2 ans qu'il avait toujours été membre du Parti communiste chinois, par exemple. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une espèce de guéguerre engagée contre le poids excessif de ces nouvelles grandes entreprises digitales. La Chine est première au monde pour l'utilisation de ça, même devant les États-Unis en termes de pénétration dans la population. Il y a une guerre contre leur emprise qui est jugée exagérée et le risque aussi qui déborde un peu l'État-parti, le Parti communiste chinois. Jack Ma a mis le feu aux poudres en octobre en critiquant le système bancaire chinois, en disant d'ailleurs qu'il n'existait pas, le système financier chinois oui. n'existait pas, et les banques chinoises étaient des usuriers.
Alors ce qui est étonnant, François Godemont, c'est qu'après ces critiques, j'ai l'impression qu'il n'a plus donné signe de vie. Non, plus du tout, quoi. Donc,
Sinon que les amis, entre guillemets, disent qu'ils sont encore en contact avec lui, que c'est à cause du Covid qu'il se confine, mais pourtant la Chine n'est plus confinée. Ouais. Il a raté des rendez-vous, non seulement des rendez-vous publics, mais même des rendez-vous internes à son entreprise qui sont un petit peu rituels. Donc il est clair qu'il se passe quelque chose. Ouais. Il est au minimum assigné à résidence de façon informelle pendant que les différents organismes d'enquête de l'État sont en train d'investiguer et de voir ce qu'ils vont faire de son groupe, comment ils vont le casser. C'est ça l'hypothèse la plus probable.
Un minimum, comme extrême, vous dites, quoi.
Dans le cas le plus extrême, c'est une disparition qui peut durer des mois, suivie d'enquêtes et d'inculpations. Il y a déjà eu des milliardaires chinois qui ont été disparus, à commencer par le PDG, par exemple, de Fosun, l'entreprise qui a absorbé le Club Med. Et puis, au bout de quelques mois, il a reparu, mais un peu plus modeste.
Oui. Merci, hein, François Godemont. Restez encore une seconde avec nous. Alexis Poulain, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, ça me rappelle aussi la disparition quand même du patron d'Interpol, chinois aussi arrêté par les autorités, dont on n'a plus de nouvelles. La femme qui avait essayé de militer aussi pour avoir des nouvelles. Est-ce que là aussi, on sait où on en est avec cette affaire?
Oui, on sait exactement où on en est, puisqu'il a été jugé, entre guillemets, il a avoué ses fautes et il a été condamné à une lourde peine de prison après avoir effectivement disparu complètement de la circulation pendant la meilleure partie d'une année et avoir été littéralement interpellé, kidnappé à sa descente d'avion à Shanghai. Il s'agissait en l'occurrence d'un fonctionnaire d'une organisation internationale.
Et c'est étonnant parce qu'on peut faire le parallèle avec ce qui se passe quand même aux États-Unis,
où
on pointe du doigt les GAFA.
Il y en a un parallèle.
Ah bah oui, complètement.
C'est quand même très vrai parce qu'il y a 2 questions là-dedans. Il y a la question de l'emprise politique du Parti communiste, de l'État-parti et de la concurrence que peuvent exercer des entreprises aussi importantes. Mais il y a aussi une vraie question de monopole. Et en Chine, le monopole d'une entreprise comme Alibaba, ce groupe, ou de Tencent, leur rival, il est bien plus grand que celui des GAFA américains. Une même entreprise peut contrôler vos médias sociaux, vos chats, la façon dont vous communiquez les uns aux autres et avoir toutes les informations, vos achats, vos déplacements, il y a aussi des entreprises téléphoniques, votre crédit, ce que vous avez emprunté, ce que vous voulez emprunter. Elle contrôle votre vie, elle connaît votre vie
tout.
Entièrement. C'est ce qui lui donne d'ailleurs une efficacité. C'est pour ça qu'ils sont devenus si forts, par exemple, dans le business de l'assurance.
Ouais.
Un petit artisan, un entrepreneur chinois, on va lui dire oui ou non à un prêt en 15 minutes. Mais à partir de critères qu'on connaît tout de sa vie, y compris s'il a eu des contraventions, y compris s'il fréquente des gens qui sont politiquement pas tout à fait
admissibles,
etc.
dans le régime, oui, absolument.
C'est la transparence totale.
Ouais.
Et l'État revendique maintenant un des points de discussion avec Alibaba, c'est que l'État veut avoir automatiquement communication des données, notamment sur le crédit possédé par Ant.
Ouais. C'est assez incroyable, quoi, effectivement. Merci, hein, François Gonnement, pour cet éclairage. Donc, historien spécialiste de la Chine, conseiller Asie auprès de l'Institut Montaigne. Ça fait réfléchir, quand même, hein.
Alexis Poulain. C'est le nouveau modèle.
Avec
ce fichage, parce qu'en France, on avance, hein, sur le fichage politique.
Oui, mais.
On demande davantage
de
transparence.
On n'a pas de monstres des réseaux sociaux à ce point-là.
On est forcément vassal, soit du côté états-unien, soit du côté chinois, hein, que ce soit pour les infrastructures ou pour les plateformes. On parlait tout à l'heure de Doctolib. Au moins, l'avantage, c'est que c'est une entreprise française. Mais quand on parle du Health Data Hub, là, c'est les serveurs de Microsoft, c'est encore autre chose.
Ouais.
Donc, c'est vrai qu'on a, nous, on a un vrai problème, dans le sens où on n'a même pas à se poser la question d'avoir un géant du numérique qui
est trop dans le
débat démocratique.
Ah bah, je vois qu'Elisabeth Lévy est revenue pour une conclusion sur ce sujet.
J'écoute avec beaucoup d'intérêt. Justement, je ne suis pas partie parce que j'ai commencé à vous écouter sur Alibaba. C'est absolument passionnant. Mais je pensais exactement. C'est pour ça que cette querelle sur Doctolib apparaît d'autant plus sotte, si vous voulez. Et Alexis a raison. Il y a une chose qui n'a rien à voir avec les GAFA, etc. Le décret, me semble-t-il, qui autorise effectivement le recueil de données sur les opinions, etc.
Ouais.
Et a été validé, je crois,
récemment. Il y a quelques jours. Merci Elisabeth Lévy, Alexis Poulain, Isaac Cabrel, Christine Bouillot, bien sûr. Et dans un instant,
on va revenir sur l'histoire d'un jeune qui va glisser dans une forme de radicalisation avec des idées complotistes, voire racistes. C'est le premier roman, ça s'appelle Radical chez Albin Michel, de Tom Conan, qui est acteur, chanteur et désormais auteur.
Ah, mais c'est décoiffant.
Ça vous va bien, Patrick? Restez là, 9h20.